écoutez Radio J.
Radio J. Vous écoutez Radio J, il est 16h.
De l'actualité, le Hamas annonce la mort d'un nouvel otage, information non confirmée par Israël. Quelques heures plus tôt, le Hamas avait publié une vidéo où il apparaissait l'œil tuméfié, le regard hagard en articulant son nom. Le message est accompagné des hashtags « Le temps presse et votre gouvernement vous ment ». Un nouvel et tragique épisode de la guerre psychologique que mène le Hamas contre Israël, alors que comme chaque semaine, des milliers d'Israéliens ont manifesté à Tel Aviv, mais aussi dans d'autres villes, notamment Jérusalem, pour réclamer la démission du gouvernement et un accord immédiat pour la libération des 132 otages. La mort d'un nouveau soldat israélien annoncé hier soir, un cinquième militaire tué vendredi lors des combats dans le quartier de Zeitoun dans la ville de Gaza. Ariel Tzim avait 20 ans, il était originaire de Modine. Les quatre autres soldats visés dans le secteur avant-hier ont été victimes d'un engin explosif. Correspondance à Jérusalem de Daniel Haïk.
Il s'agit du sergent-chef Daniel Lévy, 19 ans, de Kiryat Motzkin, du sergent-chef Yosef Dassa, 19 ans, de Kiryat Bialik, du sergent-chef Aramias Makoriou, 19 ans, de Be'er Sheva, du sergent-chef Itaï Livni, 19 ans, de Ramat HaSharon, et du sergent-chef Ariel Tzim, 20 ans, de Modine. Que leur souvenir soit béni, il s'agit de 5 soldats de la brigade de combattants du Nahal qui ont été tués dans le quartier de Zeitoun, près de la ville de Gaza, dans le centre de la bande de Gaza lors de combats avec des terroristes du Hamas qui sont venus sur place au cours des dernières semaines. Ils ont été tués par l'explosion de charges explosives sur leur passage.
Correspondance à Jérusalem de Daniel Haïk. Est toujours sur le front sud, un tir de roquette depuis Gaza a frappé une maison d'Ashkelon. 3 blessés, mais leur état n'inspire pas d'inquiétude selon l'hôpital de la ville. Et hier, Tzahal a appelé à davantage de Palestiniens à quitter Rafiar. Ce ne sont plus seulement les quartiers de la banlieue Est qui sont donc concernés par les opérations israéliennes. 300 000 Palestiniens ont déjà quitté la zone après les premiers ordres d'évacuation. Comme la semaine dernière, pour avertir les civils de partir, Tzahal a envoyé des SMS, des tracts et passé également des coups de fil. Le cabinet de sécurité israélien a approuvé jeudi une expansion des opérations à Rafiar et Tzahal s'apprête aussi à de nouvelles opérations à Jabalia où le Hamas a repris ses activités. L'Égypte proteste contre la prise de contrôle israélienne du terminal de Rafiar. Elle a décidé d'interrompre ses aides à la bande de Gaza, décision qui devrait entraîner une baisse importante de l'aide humanitaire aux Gazaouis. Selon des responsables américains, Jérusalem ne se serait pas correctement coordonnée avec son voisin égyptien avant de lancer l'opération de Rafah. Mais Washington fait actuellement pression sur l'Égypte pour qu'elle reprenne ses livraisons humanitaires aux Palestiniens. La baisse de cette aide risque aussi d'accroître les condamnations internationales contre Israël. Eurovision et les résultats tant attendus à Malmö hier soir. C'est Nemo, représentant la Suisse, qui a remporté la 68e édition de l'Eurovision. La France, avec Slimane, est arrivée 4e et juste derrière, 5e, l'Israélienne Eden Golan. La jeune artiste qui a subi les sifflets du public au cours de sa prestation, recluse dans son hôtel pour des raisons de sécurité. La chanteuse a dû être escortée par une centaine de policiers pour se rendre à l'arène hier soir, harcelée par des manifestants se réclamant pro-palestiniens et exigeant son exclusion de la compétition. Contre la haine à l'école, un rassemblement est prévu cet après-midi à Paris, place de la République. De nombreuses organisations y participent. L'une des organisatrices, Sandra Ifra, était ce matin sur notre antenne.
On a voulu marquer le coup. Nous ne pouvons plus tolérer cette haine au sein de nos écoles, de nos lycées maintenant, parce que depuis la semaine dernière, c'est les lycées et pas uniquement les universités, comme vous le disiez, aux États-Unis, au Canada ou ailleurs. Et si vous voulez, c'est un combat qu'il faut mener maintenant. C'est l'école, c'est l'avenir, c'est nos enfants. Nous aussi, en tant que mère de famille, je fais partie du collectif Women United for Peace.
C'est donc ce rassemblement contre la haine à l'école qui est prévu à 15h à Paris, place de la République.
Radio J.
Bonjour.
Le 6-9, Hélène Aferradian.
Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités. de 6h à 9h. Au menu, politique en Israël, politique en France, mais aussi culture, société, santé, judaïsme, histoire. C'est tous les matins de 6h à 9h sur Radio J.
Vous êtes assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière.
Victor Vince, directeur général du MDA France.
Un don vous permet de sauver des vies en Israël. Le Magen David Adom n'est pas financé par l'État d'Israël. Véhicule médicalisé, matériel médical, transfusion sanguine. Grâce à votre générosité, des milliers de vies sont sauvées chaque année.
Faites de votre IFI un don en faveur de la vie. MDA France, 40 rue de Liège, Paris. MDA-France.org.
MDA-France.org.
Sarcelles, la petite Jérusalem. Du 12 au 16 mai, participez à une initiative sans précédent. La construction du centre du judaïsme du Val d'Oise, Bereshit. Un projet adossé à la grande synagogue de Sarcelles, vital pour l'avenir de la communauté juive. Un projet qui a déjà franchi des étapes clés, qui arrive désormais à son achèvement. Devenez un pilier de notre petite Jérusalem. Cliquez sur le lien charidi.com/Bereshit. charidi.com/Bereshit. Votre générosité fera toute la différence.
Radio J.
Pont Neuf, Shlomo Malka.
Radio J.
Pont-Neuf, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité du livre. Invité de Pont-Neuf aujourd'hui, François Azouvi, pour son livre « Du héros à la victime, la métamorphose contemporaine du sacré » paru aux éditions Gallimard. François Azouvi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je vais commencer par lire ces quelques mots, ces quelques phrases de l'introduction. Le 8 novembre 2021, Valérie Pécresse, alors candidate à l'élection présidentielle, était interrogée à la télévision sur ce que serait sa première mesure si elle était élue. Ma première décision, répondit-elle, sera très symbolique. Elle sera de déclarer un jour des héros qui font la France. Dans toutes les écoles, on étudiera ce jour-là la biographie de nos grands hommes, de nos grandes femmes d'hier et d'aujourd'hui, de Vercingétorix à Marie Curie. Comme Madame Pécresse n'a pas été élue, il n'y a pas eu donc du jour des héros, mais l'idée était très intéressante.
Elle était surtout significative de notre temps, parce qu'elle allait exactement à contre-temps de ce qui est la norme aujourd'hui. Il est évident qu'elle voulait par là s'inscrire en faux contre ce qui est devenu notre habitude, notre idéologie la plus banale, la plus fréquente, c'est-à-dire l'idéologie victimaire. Et elle voulait essayer de revaloriser les héros. Mais je doute fort que sa proposition aurait été suivie de beaucoup d'effets, ou en tout cas qu'elle aurait suscité l'enthousiasme.
L'idée, en tout cas, selon vous, était d'aller à contre-courant de l'époque, que les poilus de 14-18 seraient arrangés dans la catégorie des victimes, et même Arnaud Beltrame, dans une plaque inaugurée dans un jardin qui porte son nom, on peut lire victime de son héroïsme. La formulation est assez cocasse.
Ben oui, elle est en forme d'oxymore. Elle est même parfaitement contradictoire. Après sa mort héroïque, il y a eu une pancarte une inscription qui a été mise là où il a été tué. Et la formule, en effet, était celle-ci, Arnaud Beltrame, victime de son héroïsme. Mais je trouve cette formule extraordinairement révélatrice, parce que il est évident que les personnes qui ont conçu cette inscription avaient l'intention, voulaient conférer une sorte de dignité supplémentaire au colonel Beltrame, comme si le fait d'avoir été un héros aujourd'hui ne suffisait plus. Il fallait, pour que sa valeur éminente soit reconnue, il fallait que ce soit une victime. Alors évidemment, être victime et être héros, c'est légèrement contradictoire. Mais voilà, c'est un Là aussi, c'est un signe des temps. Il est évident qu'aujourd'hui, il est bien davantage valorisé, en fait, d'être une victime que d'être un héros. Et quand on est un héros, on est toujours plus ou moins suspect d'être un faux héros. Notre époque adore pouvoir montrer que des héros sont des faux héros, ne sont rien d'autre que des faux héros, et que par conséquent, il faut se dépêcher de les déboulonner. On adore déboulonner, et au contraire, les victimes jouissent d'une faveur tout à fait extraordinaire.
Alors, vous consacrez votre livre aux héros et aux victimes aujourd'hui, et c'est vrai qu'on a souvent dit que la culture héroïque était d'origine gréco-romaine, alors que le culte de la victime est plutôt du côté de la tradition judéo-chrétienne. Vous vous montrez que c'est une vision assez simpliste.
Je crois surtout que c'est une vision erronée. Alors que la culture héroïque soit en effet commence avec la culture gréco-romaine, il n'y a aucun doute à ce sujet, bien entendu. Mais je pense que ni le judaïsme ni encore moins le christianisme n'ont fait véritablement une place à ce que nous appelons la victime. Dans la Bible hébraïque, la victime n'a pas de rôle, et la dimension héroïque est constamment présente. Elle est présente dans tous les personnages centraux, cardinaux de l'Ancien Testament, hommes ou femmes. Et pensez même par exemple à l'épisode fameux du sacrifice d'Isaac, où justement la victime pourrait apparaître à ce moment-là. Bon, mais justement elle n'apparaît pas. Il n'est à peu près pas question d'Isaac dans l'épisode de la ligature. C'est Abraham qui est au centre du récit, et c'est d'Abraham qu'il s'agit de savoir si il craint Dieu ou pas. La victime est là, absente. Et alors, dans le christianisme, à l'évidence, ce n'est pas la victime qui est présente, c'est le martyr. Et le martyr, c'est tout à fait autre chose que la victime. Il y a dans la notion de martyr, il y a en fait une dimension héroïque. Le martyr est une version totalement héroïsée de la souffrance.
Qui confine parfois, vous utilisez l'expression, à la sainteté.
Qui a à voir
avec la sainteté.
Bien sûr, tout ça est totalement solidaire. Héros, martyrs, sainteté, ce sont des notions qui sont, intimement liées. Et le modèle, évidemment, du martyr, c'est le Christ. Et le Christ est tout sauf une victime. Il se porte au-devant de son supplice, et il n'y a aucun élément de passivité dans la dimension du martyr, alors que justement, la victime, dans la notion de victime, il y a la dimension de passivité.
Alors, vous consacrez un chapitre à ce que vous appelez l'apothéose du modèle héroïque, et c'est la guerre de 14, et vous évoquez une figure qui est très présente dans votre livre, à juste titre, c'est Peggy, qui a beaucoup joué ce rôle à la fois de héros et de martyr, autant au lendemain de la première guerre, au début de la première guerre mondiale, heureux ceux qui sont morts, etc., que dans la seconde où on fait appel à sa vision justement de l'héroïsme.
Oui, je m'aperçois en fait en vous écoutant que Peggy a toujours une grande place dans mes livres. C'est vrai que j'ai une grande admiration pour cette figure, quel que soit parfois ses débordements ou ses excès, mais c'est quand même une immense figure, et je pense entre autres à la façon dont il a parlé des Juifs dans Notre Jeunesse. Je trouve que personne n'a parlé avec une telle profondeur, une telle qualité d'émotion des Juifs. Mais bon, je referme la parenthèse.
C'est une parenthèse, mais c'est vrai que je m'aperçois que je vous avais reçu d'ailleurs pour un Bergson.
Oui.
Et ce sont deux figures qui sont au centre de votre travail.
Oui, c'est vrai. un peu toujours.
Oui.
Mais voilà, c'est comme ça. Mais là, il a une place absolument suréminente, évidemment, parce que il incarne, comme vous le disiez tout à l'heure, il incarne avant 1914, il incarne cette union de la sainteté et de l'héroïsme. Alors il a explicité cette union dans sa propre philosophie, dans sa propre doctrine, avec une force incomparable. Il a cherché à montrer que le temporel, le spirituel couche dans le lit du temporel, et que justement ce qui est absolument fort dans le christianisme, c'est cette union charnelle du temporel et du spirituel. Il avait une conception tout sauf éthérée de la sainteté, et pour lui justement l'héroïsme et la sainteté faisaient couple, et faisaient ce couple charnel qu'il a mis en poème dans son fameux immense poème Ève, heureux ceux qui sont morts, etc. Et comme il est mort tout de suite dans les premiers jours de septembre 1914, dans les premiers jours du combat, et que son poème était déjà paru, sa mort a pris une dimension symbolique. En quelque sorte, il est devenu en quelque sorte l'archétype, si vous voulez, du héros.
Est présent aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous citez beaucoup. Et moi, j'aime beaucoup ces deux figures juives, Vladimir Rabbi et Arnold Mandel. Et Vladimir Rabbi avait dit « Nous sommes seuls » en 39, « Nous sommes seuls, nous n'avons plus un Peggy pour nous comprendre et pour nous aimer. »
C'est vrai.
Et pour nous défendre.
C'est vrai. Alors, Peggy, ce qui est singulier d'ailleurs, c'est que la fortune de Peggy pendant la Seconde Guerre a été disputée par les deux camps, à la fois par les vichistes et par les résistants. Pour les uns, elle incarnait, la figure de Peggy incarnait la France éternelle, la France catholique, etc. Et pour les autres, elle incarnait l'esprit de résistance, le courage, l'héroïsme, le poète qui avait chanté Corneille, qui avait chanté Victor Hugo, etc. Et donc, sa mémoire s'est trouvée prise entre les deux. Et c'est vrai qu'au lendemain de la guerre, plusieurs livres sont parus sur Peggy, parce que c'était, au fond, encore une fois, la grande figure qu'il fallait réactiver.
Et vous rendez hommage aussi aux Juifs qui se sont battus dans l'armée juive, dans la résistance, notamment au ghetto de Varsovie. Et là, là encore, on retrouve le mélange de... Oui. D'héroïsme et de d'état de victime.
Alors, de victime, non, justement.
Ou de témoin encore.
De témoin.
Vladimir Rabbi dit, c'est nous avons été des témoins.
Exactement.
Et nous sommes encore des
Exactement.
Témoins.
Exactement. Vous soulignez le concept, enfin la notion qui est effectivement capitale ici, celle de témoin. Dans les quelques années qui ont suivi la Seconde Guerre, le modèle du héros couplé avec le martyr, ce modèle a encore fonctionné un temps. Dans les années 45, 46, 47, on est encore dans le régime d'exemplarité qui a fonctionné depuis toujours, le régime héroïque d'exemplarité, celui qui fonctionnait avant 1914 et en 1914. Et les Juifs, puisque vous évoquiez leur cas, les Juifs ont été, dans cette période, ont été solidaires, si on peut dire, de ce schéma d'interprétation. Ils ont été... considérés ou comme héros, dans le cas par exemple du ghetto de Varsovie, dans le cas de la résistance juive qui a donné lieu à plusieurs livres qui ont paru tout de suite après la guerre, mais pour ceux qui n'ont pas résisté ou ceux qui n'ont pas été dans le ghetto, ou ceux qui sont morts dans les camps, la catégorie qui a à ce moment-là prévalu, c'est celle de martyr. C'est pas celle de victime. Et ça, c'est très important parce que justement, il va falloir du temps et probablement beaucoup de un très gros effort de pensée, un travail de pensée très très puissant pour que la catégorie de martyr s'efface au profit de la catégorie de victime. Mais dans les années d'après-guerre, c'est ce modèle héroïque qui prévaut et qui prévaut aussi bien de la part des juifs que de la part des non-juifs, avec l'idée très comment dire très très compréhensible et devant laquelle on doit s'incliner, je crois, c'était une manière de valoriser le sort des juifs, en faire des héros ou en faire des martyrs, c'était les valoriser. Et vous citiez tout à l'heure le nom d'Arnold Mandel, mais justement lui, à ce moment-là, en 46 ou 47, je ne me souviens plus, publie un texte qui est très significatif dans lequel il réfléchit sur les catégories de héros, de martyrs et de victimes. Et c'est très intéressant parce que dans ces années-là, la catégorie de victime est une catégorie sous-évaluée, est une catégorie dont personne ne veut. Et en particulier, on n'en veut pas pour les juifs. Ils n'ont pas été des victimes. Ils ont été ou des martyrs ou des héros. Alors des martyrs de quoi? Puisque martyrs, c'est témoins. Ils ont été pour les uns des témoins de la sanctification du nom, pour les juifs pieux. Pour d'autres, ils ont été témoins de la lutte contre la barbarie, contre le nazisme. Ils ont été témoins de la lutte pour la liberté, mais ils ont toujours été témoins de quelque chose. Et il va falloir 10, 20 ans pour que cette façon de caractériser la souffrance des Juifs disparaisse et qu'émerge la catégorie de victime. Avec cette très grande difficulté, ce défi, si vous voulez, qui était d'accepter que les Juifs n'étaient morts ni pour la sanctification du nom, ni pour le combat antifasciste, mais qu'ils étaient morts pour rien.
Absolument. Et ça, c'est terrible. Alors là, et c'est là que vous évoquez une figure d'un philosophe canadien qui s'appelle Émile Fackenheim, et ce 614e commandement, bon, il y a 613 commandements pour les juifs religieux, et lui, il a énoncé un 614e commandement, c'est de tenir, de résister au lendemain de la au lendemain de du nazisme. Et ce 614e commandement rend un son particulier dans l'actualité, vous ne trouvez pas? Vous dites d'ailleurs un moment, le renversement de la victime juive en bourreau nazi est possible. Oui. Non seulement il est possible, mais on a envie de dire on y assiste aujourd'hui.
C'est vrai. Alors là, vous allez vite en besogne, parce que on est passé d'un seul coup de l'après-guerre à 1967. Dans l'intervalle, il faut le dire parce que justement, ça explique ce qui va se passer avec ce renversement dont que vous évoquez à l'instant. Dans l'intervalle, le sort des victimes de la Shoah est passé au centre de la conscience, je dirais occidentale et en tout cas française, certainement, et s'est accompli, s'est effectué ce travail que je disais tout à l'heure de constitution de la catégorie de victime, cette idée que les Juifs ont été des victimes et que avoir été, au supplice, comme des moutons à l'abattoir, comme on disait à l'époque, et je mets des guillemets évidemment, avoir été donc au supplice comme des victimes à l'abattoir, ce n'était pas une déchéance, c'était le statut de victime, et c'était d'une certaine façon la grandeur du sort des Juifs. Alors, se constitue dans ces années-là, se constitue une sorte de modèle. Les Juifs deviennent ce que Vladimir Jankélévitch appelait en 1964 des victimes privilégiées. Et ça, c'est tout à fait capital. Parce que on entre dans une époque, dans un moment où les victimes de la barbarie nazie deviennent les paradigmes de la victime. 20 ans plus tard, Ricoeur aura une formule que je crois très éloquente et en même temps très problématique, à mon avis. Il dira « Les victimes d'Auschwitz sont auprès de nous les victimes déléguées de toutes les victimes de l'histoire. » Et je crois qu'on ne peut pas comprendre ce qui va s'effectuer effectivement au moment de la guerre des six jours et ce qui se joue aujourd'hui, c'est-à-dire ce renversement de la victime juive en bourreau nazi.
Oui, vous avez raison de parler de 67, parce que vous le dites dans le livre, c'est ce qui est arrivé déjà dans le passé avec Anya Frankos, qui écrit un livre qui s'appelle Les Palestiniens, où elle dit que les seules victimes, ce sont les Palestiniens.
Exactement.
Et là, on retrouve aujourd'hui... je m'excuse, je suis obligé d'évoquer la chose parce que cette semaine, il y a eu ce cas de cette jeune Israélienne qui participait à l'Eurovision et qui a été acclamée par l'opinion, etc. On lui a donné une bonne place, 40% de l'eau. Mais en même temps, elle a vécu l'horreur, c'est-à-dire que elle était enfermée dans son hôtel, elle ne pouvait pas sortir parce que dehors, les gens criaient « mort aux Juifs ». C'est terrible, ce renversement.
Oui, absolument. Il est à la fois terrible, spectaculaire, et en même temps, je crois qu'on ne peut vraiment le comprendre qu'à la lumière de cette histoire que j'essaye de raconter et dont probablement la première phase... première phase de ce renversement, c'est la guerre des six jours, c'est 1967. Il se joue là, en 1967, une opération, ou comment dire, un événement, si vous voulez, qu'on va retrouver aujourd'hui. Exactement, inchangé d'une certaine façon. Le renversement immédiat, comme je le disais un instant, le renversement immédiat de la victime en bourreau. Et il faut bien comprendre ce qui se produit là et qui, à mon avis, explique très largement ce qui se passe aujourd'hui. À partir du moment où les Juifs sont érigés en victimes privilégiées, comme disait Jankélévitch, ou en délégués de toutes les victimes de l'histoire, à partir de ce moment-là, se met en place et ne peut pas ne pas se mettre en place une concurrence victimaire dont les effets sont terrifiants. Les victimes, les Juifs...
C'est pas eux les victimes, c'est nous.
Voilà, c'est ça. Et nous aussi, nous sommes des victimes privilégiées. Il faut bien entendre ce que cette formule, une formule comme celle de Jankélévitch, victime privilégiée, peut signifier pour les autres, c'est-à-dire pour des catégories qui, à tort ou à raison, vont estimer qu'elles sont elles aussi victimes. Nous aussi, nous sommes des victimes privilégiées. Il n'y a pas que vous. Et ce qui se met en place et qui est absolument inhérent à cette idéologie victimaire dans laquelle nous sommes, c'est la concurrence victimaire.
Alors, on trouve beaucoup de résonance entre votre livre et celui de Pascal Bruckner. On le recevra bientôt ici. Et en fait, on peut dire c'est une... lui dit « je souffre, donc je suis ». Et vous opposez le héros à la victime en analysant cette métamorphose. Il y a une inspiration évidemment commune entre vos deux livres. Merci François Azouvi. Du héros à la victime, la métamorphose contemporaine du sacré aux éditions Gallimard. C'était Pont Neuf, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité du livre. Bon dimanche à tous.
Il est la fée radio.
Tous les matins à 7h45 sur Radio J. Christophe Barbier.
Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin.
C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J.
Sarcelles, la petite Jérusalem. Du 12 au 16 mai, participez à une initiative sans précédent. La construction du centre du judaïsme du Val d'Oise, Bereshit. Un projet adossé à la grande synagogue de Sarcelles, vital pour l'avenir de la communauté juive. Un projet qui a déjà franchi des étapes clés, qui arrive désormais à son achèvement. Devenez un pilier de notre petite Jérusalem. Cliquez sur le lien charidi.com/Bereshit. charidi.com/Bereshit. Votre générosité fera toute la différence. Radio J.
Médiasphère, Emmanuel Aumônier.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue pour ce nouveau numéro de Médiasphère. Nous allons aujourd'hui nous intéresser aux industries culturelles, à la télévision, aux jeux vidéo, aux plateformes, à leur présent et surtout à leur avenir. Pour cela, j'ai invité Alain Lediberder. Bonsoir,
bonsoir
Alain Lediberder. Alors, vous êtes avec nous et on est très honoré de votre présence. Vous avez été conseiller de Jack Lang au ministère de la Culture. Vous avez été responsable des nouveaux programmes à Canal+, directeur des programmes également à Arte. Et puis, vous avez lancé des chaînes de télévision thématiques comme Game One, comme Allociné TV. Enfin, vous êtes évidemment l'auteur de plusieurs ouvrages, que ce soit sur la télévision, sur les jeux vidéo, l'économie des industries culturelles. C'est votre dernier ouvrage paru en 2019. Est-ce que aujourd'hui il y a, vous qui vous êtes intéressé aux industries culturelles toute votre vie, une industrie culturelle qui vous intéresse particulièrement ou qui vous préoccupe? Alors comme ça on penserait immédiatement aux plateformes, même si ça commence à pu être tout à fait nouveau, mais est-ce qu'il y en a une aujourd'hui qui pourrait faire l'objet d'un prochain livre ou d'une étude particulièrement?
Tout de suite, je pense à la situation de l'audiovisuel américain, qui est d'une certaine manière catastrophique, en fait, pour les grands noms les plus connus, ceux qui sont connus depuis un siècle, les Warner, les Universal, les Paramount sont dans une situation en réalité terrible. Y a un bouleversement complet de l'économie et de la sociologie de l'audiovisuel américain. Compte tenu de son importance au niveau mondial, c'est, je pense, le sujet pour moi le plus important et le plus intéressant aujourd'hui. Mm. Sachant qu'aux États-Unis, la distinction entre cinéma, télévision, plateforme n'a pas de sens. Hein, tous ces groupes font tout ça. Ils sont un petit peu déplumés depuis quelques années, mais avant, ils faisaient aussi la musique, ils faisaient aussi l'édition. Les grands éditeurs américains, à un moment ou à un autre, ont été acheté par Paramount, par Universal, ça a un peu changé. C'est-à-dire qu'en fait ils ont vendu Simon Schuster par exemple, ça reste quand même un secteur qui contrôle à peu près la totalité des industries culturelles marchandes en tout cas.
Et alors, quel est l'enjeu, du coup, aujourd'hui? Pourquoi c'est aussi intéressant à suivre? Qu'est-ce qui va se jouer, peut-être, dans l'avenir aussi démocratique des États-Unis?
Alors, il se joue plusieurs choses. D'une part, on a un secteur qui était très prospère dans les années 80, 90, mais au début des années 2000, et qui ne l'est plus. Notamment les chaînes de télévision américaines, les networks ont dominé pendant 40 ans la tête des Américains. Et aujourd'hui, par exemple, les trois grands réseaux ont perdu la moitié de leur audience en 7 ans. C'est pas une érosion, c'est un écroulement.
C'est un effondrement.
Pendant très longtemps, on disait que c'est CBS, par exemple, le soir, ou NBC faisait les élections. On se rappelle de...
Elles sont encore puissantes quand même, toutes ces grosses chaînes ABC, non. NBC...
Non, elles sont...
Elles sont moribondes, selon...
Elles sont moribondes. Elles sont moribondes. Alors, d'une part, leur audience a beaucoup baissé, enfin considérablement baissé, mais en outre, leur sociologie, enfin la nature de leur public a aussi complètement évolué. C'est-à-dire qu'en fait, les jeunes, enfin même les actifs, les moins de 50 ans ne regardent plus CBS, NBC.
Est-ce que c'est la même chose en France? Est-ce que les chaînes de télévision françaises ne sont plus regardées que par les vieux également et sont condamnées ou à changer de modèle ou à disparaître?
Alors, c'est une tendance de fond partout, donc y compris en France, mais disons, en France, c'est plus lent. Aux États-Unis, ça a été quand même très brutal. C'est-à-dire que il y a deux parties du paysage audiovisuel américain qui se sont écroulées. Ça a commencé par le câble, pendant très longtemps, et encore maintenant, on croit que MTV, par exemple, ou Nickelodeon, ou Disney Channel, sont des chaînes importantes. En fait, elles valent plus rien. Mm. Là, par exemple, l'audience de Disney Channel a été divisée par 10. MTV n'existe quasiment plus. Donc ça, c'était ce qu'on appelait le câble, qui à un moment a représenté la moitié de l'audience américaine. Et d'autre part, il y avait les networks qui restaient quand même puissants. Mais les networks donc ont trois problèmes. Premièrement, donc la baisse de l'audience et son vieillissement. Deuxièmement, le système américain est complètement différent du système européen sur un point, c'est que les chaînes sont pratiquement toutes des chaînes payantes. Mm. Même les chaînes gratuites sont des chaînes payantes. Les networks, jusqu'aux années 2010, avaient 50% de leurs recettes, c'était la pub, 50% de leurs recettes, c'était le reversement de redevances par les câbles opérateurs. Mm. C'était vraiment les deux. Alors, c'était possible parce que le câble était reste extrêmement cher aux États-Unis. Alors, ce qui fait, en France, par exemple, TF1, M6 se sont dit, ben voilà notre avenir et on va aller demander une rémunération à Free, à Orange. Ils sont même battus, parfois en courant des risques, puisque des fois il y avait des interruptions du service. Mais c'était une vision de l'esprit, parce qu'en gros, le câble aux États-Unis, c'est $150 de revenus de par mois et par abonné. En France, c'est 35. Donc il n'y a pas grand-chose à se partager.
Et alors pour revenir à la France, justement, vous aviez écrit à la fin des années 80 avec Nathalie Coste-Cerdan, briser les chaînes. Et ce que vous aviez vu se confirme un peu pour la France en tout cas. C'est-à-dire que la notion de chaîne tend à disparaître et on se retrouve avec des grands groupes comme TF1 par exemple, qui doit avoir une dizaine de chaînes sur le câble ou la fin ou ADSL et pour vous les chaînes ne peuvent survivre que comme ça, en étant des groupes.
Oui, tout à fait. Alors bon, c'est toujours un peu embêtant de s'auto-citer, mais on avait écrit en
c'est moi qui vous ai cité.
Oui, merci. Et on disait que on passait de la télévision du broadcast, donc des grandes chaînes au sens traditionnel, même le mot chaîne qui existe qu'en français et en espagnol, hein, qui n'existe pas dans le monde anglo-saxon, était condamné à être remplacé par ce qu'on appelait à l'époque les vidéoservices. Donc en 88, il n'y avait pas Internet. On n'a pas tout prévu, bien sûr, mais par contre, on a prévu cette disparition de la notion de chaîne. Il faut savoir que à l'époque de son zénith, la télévision, disons, des années 90, une chaîne, c'était un immeuble, c'était une entreprise, c'était une fréquence, c'était une image. Concrète pratiquement le TF1 d'Hervé Bourges en 83 ou de Lelay en 93, c'était des institutions, des monolithes, et ça a complètement disparu. Je prends un exemple, quand on dit Canal+, quand j'étais à Canal+, c'était une chaîne, il y avait une image de Canal+, mais c'était un canal, un service, etc. Aujourd'hui, quand on dit Canal+, les émissions dont on parle, elles sont sur C8, c'est Hanouna, elles sont sur CNews, c'est Pro, elles sont tellement sur Canal+.
Donc dans un groupe.
Et en fait, c'est vrai que M6, c'est W9 et RTL, TF1, c'est...
Et puis on peut même aller plus loin dans le cas du groupe, justement, et de CNews. Les émissions de CNews se retrouvent sur Europe 1 et voilà. Inversement.
Mais ça, c'est le présent, c'est pas tellement l'avenir, c'est le présent. La notion de chaîne... bloc vertical où se confondent l'aspect technologique, le canal, l'aspect éditorial, le programme et l'aspect entreprise, ça c'est mort.
Il y a quelque chose qui était intéressant avec la télévision et on peut penser que c'est toujours un peu le cas, cette capacité qu'elle avait à réunir toute l'humanité autour d'un événement. Alors on pense bien évidemment en 69, quand on a marché sur la Lune, il y avait toute la planète qui regardait. C'est toujours un peu le cas aujourd'hui, quand il y a des grands événements sportifs, ou quand il y a des catastrophes, là, encore plus récemment, quand il y a eu l'attaque du Hamas le 7 octobre, les chaînes infos sont très regardées. Quand il y a eu Charlie Hebdo, c'était aussi le cas. Les gens arrivent quand même encore un peu à communier avec la télévision, et c'est encore ça, on le trouve pas sur d'autres plateformes ou médias.
Non, c'est vrai. Dans l'histoire des médias, si on prend un peu de recul, la télévision est tout à fait exceptionnelle. Elle a à un moment occupé une place que avant ni la radio, ni la presse écrite, ni avant encore le théâtre n'ont occupé. C'est qu'à un moment elle était partout et tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dès les années 80, par exemple, la télévision en France est devenue la principale activité éveillée. Il y avait, si vous prenez le budget de temps des Français, il y a le sommeil à peu près 8 heures par, et il y a le travail, mais il y a que 40% de la population qui travaille. Et la télé, c'était plus que le travail. Donc ça, cette espèce d'hypertrophie de ce média le rend original, et ce qui fait qu'il décline, mais ça prend du temps, parce qu'il part de tellement haut que, comme vous le disiez, même maintenant où il y a plein de raisons de penser que les choses se rétrécissent, néanmoins, il y a que la télévision. Là, cette année, en mode, je parlais de CBS, ils ont quand même fait 120 millions de téléspectateurs sur le Super Bowl. Il y a de très très beaux restes encore. Hein.
Et est-ce qu'il faut s'inquiéter, justement, si on va un peu plus loin dans le raisonnement, de la disparition, ou en tout cas le remplacement progressif de la télévision par les plateformes, en se disant que ça va être une culture morcelée? C'est-à-dire que avant, bah, dans les années, il y a longtemps, mais dans les années 60, 70, on parlait tous du film qu'on avait vu la veille, parce qu'on avait tous vu le même, parce qu'on avait deux ou trois chaînes. Aujourd'hui, ne serait-ce que quand on va sur Netflix, si on est fan de science-fiction, on voit que de la science-fiction. Si on est fan de sport, on voit que du sport. Et il y a une espèce de culture de niche qui se développe par opposition à ce que représentait la télévision, c'est-à-dire la culture de masse.
Alors, oui, mais c'est surtout une parenthèse qui se referme, parce qu'en fait, c'est pas nouveau, cette situation. C'était celle qu'on avait avant la télévision. La France des années 50, où les gens n'avaient pas de téléviseur, elle était extrêmement morcelée. Mmh. Les gens qui lisaient la presse quotidienne régionale, la plupart ne lisaient pas la presse nationale. Les gens qui lisaient le Figaro ne lisaient pas l'Humanité. Les gens qui allaient au match de foot n'allaient pas du tout au théâtre ou à l'opéra, etc. Le morcellement, on y vient, on y est, mais c'est pas une nouveauté. C'est que la parenthèse enchantée de cette anomalie historique qui était la télévision des années 80, 70, 80, etc., se referme, c'est vrai, et il faut le regretter, mais on tombe pas dans un inconnu. C'est-à-dire que je pense pas que c'est pas vrai qu'à un moment il y a eu une homogénéité des pratiques culturelles, par exemple. Elles étaient peut-être même plus diverses au début du XXe siècle qu'elles ne le sont aujourd'hui, malgré effectivement les chapelles. Mmh. D'ailleurs, même quand on creuse la télévision de l'époque de l'ORTF ou des années 80, les gens ne regardaient pas tous la même chose. Le public des émissions, des grandes émissions d'infos comme 5 colonnes à la une, c'était pas le public du sport. Là, on a un peu mythifié cette idée qu'à un moment, tous les Français regardaient la même chose. Mmh. Oui, mais c'est plus que maintenant. Mais ouais, c'était quand même pas absolu. Le cinéma, par exemple, dans les années 60, le public dans les salles de la Nouvelle Vague, c'était pas le public de Disney.
Bien sûr. Alors justement, on va parler du cinéma, on va agrandir un peu l'écran et s'intéresser aux chiffres. Alors, on a retrouvé en France, dès 2023, des résultats qui étaient proches de ceux de la crise avant Covid pour la fréquentation des salles. 181 millions d'entrées, c'est-à-dire plus 19% par rapport à l'année précédente. Le cinéma français aussi se porte plutôt bien, il a 40% de part de marché. Est-ce que il faut être optimiste par contre pour le cinéma? Est-ce que c'est une industrie qui se porte bien, qui existera toujours, qui est ancrée dans les pratiques?
Oui, le cinéma, c'est une vieille bête. Hein. Elle a survécu aux guerres, elle a survécu à la pauvreté. En 1895, première séance de cinéma en France.
à de multiples reprises, le cinéma.
Enfin, elle a été menacée dans son économie, souvent à multiples reprises, mais par contre, elle n'est jamais morte. On peut faire des films avec deux bouts de ficelle. La Chine de la fin du 19e siècle, qui était en totale décomposition, faisait des films 2 ans après la première séance des Frères Lumière. Il y a du cinéma en Afrique, et du cinéma même en Haïti. Donc, c'est un domaine qui est extrêmement plastique. On peut jouer sur les devis, on peut jouer sur les techniques. Contrairement à l'industrie du jeu vidéo,
qu'on compare
souvent injustement, c'est beaucoup plus rigide, le jeu vidéo. On peut pas faire un jeu vidéo, on peut plus faire depuis très longtemps un jeu vidéo avec moins d'un million d'euros, par exemple. Tandis que le cinéma, la période d'avant Canal+, ça semble être un désert où il n'y avait pas le financement de Canal+, il n'y avait pas encore les lois, les décrets, le compte de... Il est extrêmement brillant. Sans parler des années 60, mais Le Père Noël est une ordure, ça se fait en 82, avec des budgets 10 fois inférieurs de ceux d'aujourd'hui. On peut refaire demain un équivalent du Père Noël est une ordure avec des devis, de l'argent beaucoup plus faible. Cela dit, c'est pas ce qui se passe, en fait. Il y a beaucoup d'argent dans le cinéma. Il va très bien. Ça va pas bien depuis 3 mois, là. L'année 2024 est pas terrible, surtout pour les films français. Mais, faut rappeler que le point le plus bas de la fréquentation, c'était les années 90. Et dans les années 90, c'est aussi une période où les devis explosent, parce que Canal+ est à son zénith. Et donc la salle va très mal, avant qu'on refasse des multiplexes, mais par contre le cinéma va bien. L'économie du cinéma, elle est très particulière, parce qu'elle s'alimente à plein de sources. Maintenant, il y a les plateformes.
Alors justement, les plateformes, selon vous, est-ce qu'elles ont eu une influence sur la... Enfin, elles ont forcément eu une influence, mais sur la qualité de production des films. Est-ce que le cinéma, la manière de faire du cinéma, la manière dont travaillent les réalisateurs et les distributeurs aujourd'hui est différente parce que il y a un nouveau concurrent et que quelque part il faut un peu limiter pour rester dans le jeu.
Alors d'abord, moi j'aime pas du tout le mot plateforme et je pense que c'est vraiment dommage que la loi française ait repris ce terme vague parce que si on parle du streaming de produits audiovisuels, il y a quand même 4 catégories totalement différentes, qui n'ont pas le même modèle économique, qui n'ont pas la même histoire, qui n'ont pas la même stratégie, qui n'ont pas le même effet sur l'environnement. Et les 4 catégories, c'est... Il y a une entreprise qui est une catégorie à elle seule, c'est Netflix, par rapport au cinéma, pose des problèmes spécifiques et en même temps résout certains problèmes. Il y a les majors, qui sont... Pour elles, même si elles font le même produit à la fin... Elles ont pas du tout la même économie, pas du tout les mêmes enjeux. Netflix se fiche totalement de la chronologie des médias. Tandis que les 4 majors, elles ont toujours vendu des films et elles continueront à le faire en salle parce que ça rapporte beaucoup d'argent et à court terme. Donc elles sont sensibles à la chronologie des médias. Après, vous avez une...
Quand on parlait de chronologie, c'est le fait de sortir les films en salle.
Puis après, dans une première fenêtre, notamment France Canal+, puis une deuxième fenêtre, etc. Ensuite, il y a une troisième catégorie, c'est les deux intrus, on va dire, Apple et Amazon. Et Apple et Amazon, c'est encore autre chose, parce que leur enjeu n'est pas du tout le cinéma ou l'audience ou concurrence de Netflix. Les deux ont un enjeu, c'est la maison. Les deux essaient de bâtir un écosystème dans la maison. Alors, Amazon, c'est un peu différent, c'est le Kindle, c'est aux États-Unis, la vidéosurveillance, la santé, etc. Apple, c'est l'iPad, les AirPods, etc., etc. C'est moins sur la maison, encore que ça pourrait venir. Et là-dedans, parmi les choses qu'il faut donner dans la maison, un peu de sécurité, un peu de livres, un peu de musique et des films. Mais disons, c'est un enjeu minuscule, microscopique pour eux. Et puis, il y a une quatrième catégorie, c'est 90% des services qui représentent 5% du chiffre d'affaires. C'est toutes les offres des autres. Les filiales de chaînes de télé, les filiales de groupes de télécom, les services thématiques comme Filmo en France ou bien le Crunchyroll de Sony, qui eux ont une caractéristique très différente des trois autres, c'est qu'ils ne produisent pas. Ils sont très nombreux, ils sont très peu puissants et ils produisent pas. Alors par rapport au cinéma, le Netflix par exemple a effectivement eu une stratégie quantitative. Je fais tout d'un coup plein de films dont la plupart sont des daubes.
Et dont la plupart de plus en plus maintenant ne s'arrêtent ou en cours ou dont les...
Alors peut-être pas la plupart pour ceux qui s'arrêtent, mais disons que Netflix a une économie qui marche très bien, dans laquelle il faut de la profusion. Et alors ça, c'est, ils essayent bien sûr de faire des bons films, c'est pas... Et en plus, ils sont pas idiots, mais alors eux, ils ont eu un problème particulier, c'est que tout d'un coup, ils passaient d'une période où ils faisaient 4-5 films au début des années 2010 par an, qui étaient plutôt des films indépendants, qu'ils allaient acheter à Sundance, etc. Et tout d'un coup, ils sont mis à en faire 20, 30, 40, 50, jusqu'à plus de 100 par an, et ils avaient pas les... En fait, ils avaient pas les hommes et les femmes pour gérer ça. Si c'est des daubes, c'est pas parce que Netflix veut faire des daubes.
Parce qu'il y a un manque de moyens peut-être humains.
Exactement, c'est que tout d'un coup, quand on fait 150 films par an, on ne peut pas les suivre, on ne va pas sur les tournages, etc. Donc Netflix a tordu la production cinématographique vers, on va dire, le bas de gamme, malgré, bon, il y avait de temps en temps un David Fincher, un Scorsese, etc. Mais le reste, c'était... par contre, les autres, Disney, Warner, Universal, ils ont continué à faire des films comme avant, sans rien changer. Qui est plateforme ou pas plateforme, quand si vous prenez l'année 2023 qui est un peu exceptionnelle, enfin qui est remarquable pour ça, Barbie ou Oppenheimer, c'est des films qui auraient pu être faits il y a 10 ans sans les plateformes. Encore une fois, le cinéma est plastique, il ne change pas vraiment si vite que ça. Il y a toujours eu le cinéma français, il y a deux composantes, il y a deux cinémas français, il y a les comédies, c'est un cinquième des films produits et 55% de l'audience. Et puis il y a tout le reste, c'est 80% des films, et puis qui se partagent la moitié. Ça, c'était comme ça dans les années 30, et c'était comme ça dans les années 2030.
On va parler de ce que vous avez évoqué il y a quelques minutes, c'est-à-dire les jeux vidéo. Vous avez été un précurseur là-dessus, en tout cas pour le populariser à la télévision, même dès les années 80 ou 90,
oui.
À Canal+ et à France Télévisions.
Et chez Jacques Lang, que j'avais réussi à convertir.
Et avec Jacques Lang. Et puis, les jeux vidéo, aujourd'hui, on aurait tendance à peut-être le croire, se sont totalement imposés, démocratisés. Il y a des stars, en tout cas parmi les joueurs. Mais par contre, il n'y a pas de stars dans les concepteurs, dans les game designers. On voit que, alors on citait tout à l'heure David Fincher ou Martin Scorsese, qui sont des réalisateurs stars. Pourquoi est-ce que chez les créateurs de jeux vidéo, il n'y a pas de figure comme ça planétaire dont tout le monde connaîtrait le nom?
Alors, avant de répondre à la question pourquoi, juste une remarque, c'est que c'est pas vrai partout. Au Japon, le Japon a eu une... il n'y a pas les droits d'auteur à la française au Japon. En revanche, il y a une attention aux créateurs qui est tout à fait différente. Ils avaient inventé un système qui était original, qui n'a pas été malheureusement copié à l'Occident. C'est qu'en fait, quand un créateur fait un jeu, on lui donne à lui une très grosse somme et il la répartit comme il veut avec ses collaborateurs. Ce principe, c'est une espèce de bonus, mais c'est souvent 10 ou 15% du budget du film. C'est des sommes énormes. Et donc, ça l'oblige à sélectionner autour de lui les gens qu'il aime bien, etc. Et cet argent n'est versé que si le jeu suivant est fait à temps. Ce système a été extrêmement vertueux. Et au Japon, la plupart des grands auteurs de jeux vidéo sont des stars. Ils sont interviewés, il y a des bouquins.
Et pourquoi pas chez nous, alors?
Alors,
pourtant, il y a beaucoup de joueurs.
Alors, d'abord, il y a eu quand même quelques stars. On se rappelle de Pajitnov, le type qui avait fait Tetris. Il y avait Sid Meier. Il y en a eu, mais alors pourquoi? Alors,
parce qu'on estime que c'est moins compliqué, c'est moins artistique de réaliser un jeu vidéo qu'un film.
Non, c'est, vous voyez,
que les scénaristes sont moins inventifs.
Je pense que c'est une raison politique. C'est qu'en fait, le cinéma s'est créé et c'est structuré dans les années 30, disons à l'époque de Roosevelt. Le jeu vidéo est un produit du néolibéralisme. La vraie raison, c'est que les patrons des boîtes de jeux vidéo, enfin singulièrement en France, ne voulaient pas de Star System, ne voulaient surtout pas que les auteurs aillent les embêter, comme ils disaient, etc. C'était des patrons de PME à l'ancienne. Donc Bonnel. Les gens d'Ubisoft sont un petit peu différents. Là, les Bretons, ils ont au contraire, même si ça se passe mal maintenant, mais ils ont starifié un peu un certain nombre de d'auteurs. Mais grosso modo, c'était des boîtes qui avaient pas cette culture propre à Hollywood et au cinéma français, des artistes par exemple, dès qu'il fallait faire de la musique, on se dépêchait d'aller les faire dans les pays de l'Est parce qu'il y avait pas la SACEM. Donc il y a un côté un petit peu avare de la production de jeux vidéo, austère. C'est des gens mal payés qui bossent énormément, qui ont pas de considération. Et ça, c'est alors il y a bien sûr comme dans tout système des exceptions, mais globalement c'est une tradition très dure dans les relations de travail et dans laquelle il n'y a pas de place pour des auteurs ou reconnaître les talents. Alors il y a un autre facteur, c'est l'évolution permanente des techniques. Donc un auteur, un type comme Duvivier, a fait des films muets, puis des films en noir et blanc, puis des films jusqu'aux années 60. Parce que fondamentalement, ça n'avait pas vraiment changé. Les caméras étaient différentes, les pellicules différentes, mais en gros, on faisait un film comme avant. Dans le jeu vidéo, non. Il y a des gens qui sont super forts à un moment pour imaginer comment la 3D... va être utilisé Alone in the Dark en France, etc. Mais simplement, 5 ans après, cette technique n'a plus d'intérêt, il y en a une autre. Et l'interface entre la création proprement dite et la technique, elle n'est pas la même nature dans le jeu vidéo et dans le cinéma.
Alors l'actualité de l'audiovisuel en France, plus récemment, il y a quelques jours, c'est Rachida Dati qui a déclaré qu'elle voulait fusionner l'audiovisuel public. C'est une déclaration qui n'a pas été saluée de manière très enthousiaste par les 5 précédents ministres de la culture français qui s'y sont tous opposés. Vous, je sais que vous êtes pour une sorte de création, alors vous n'avez pas ce terme, mais de grandes plateformes européennes de services publics. Est-ce que vous seriez plutôt d'accord avec Rachida Dati qui essaye au niveau national de d'effectuer une fusion?
Alors, cette histoire de fusion est une grosse bêtise. En réalité, le gouvernement, depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, aurait pu remonter même avant sous Hollande, n'a aucune idée sur l'audiovisuel. Ils sont totalement ignorants, ils n'ont pas le goût. Sarkozy, il était interventionniste, il avait un côté un peu pop culture, quoi. Depuis Hollande, c'est plus le cas. Vous n'avez pas entendu un texte ou une présence de l'audiovisuel dans les multiples déclarations des premiers ministres quand ils arrivent, quels qu'ils soient, ça a disparu. Quand il a été élu, il y avait une plateforme qui a été rédigée sur un coin de table avec 3 idées. La holding, supprimer France 4, supprimer France O. Ces choses-là, personne ne les avait demandées, ça ne relève pas d'un besoin du secteur ou de gens qui, à l'extérieur, critiquaient le secteur. Et comme ils s'en fichaient, les différents ministres, de temps en temps, quand un ministre de la Culture reste ou une ministre un an et demi, il y a un moment où l'Élysée ou Matignon dit « Oh, mais qu'est-ce que vous avez fait sur l'audiovisuel public ?» Alors les gens se disent « Merde, il faut qu'ils fassent quelque chose. » Ils reprennent la plateforme de 2017 et de temps en temps, donc Riester l'a fait et ils sortent ce truc de holding. Mais on sait pas d'où ça vient. Il n'y a pas eu de réflexion, il n'y a pas un... Dieu sait que le gouvernement a beaucoup utilisé les cabinets de conseil, les McKinsey, etc. etc. mais il n'y a pas de rapport aboutissant à ça. Donc c'est une mauvaise idée qui traîne dans un coin depuis 7 ans par des gens qui n'ont pas d'intérêt ou de goût pour le secteur. Alors, pourquoi faire ça? Il y a une raison quand même. Si je
reste une minute.
La raison, c'est que du point de vue des technocrates et des fonctionnaires, c'est quand même embêtant, effectivement, tous ces conseils d'administration. Faut aller au conseil d'administration de l'INA, faut aller à Arte France, France Télévisions, Radio France. Et donc, vu de l'État, c'est vrai que c'est un peu désordonné. Mais en revanche, d'un point de vue industriel, et surtout du point de vue des téléspectateurs et des auditeurs, il n'y a pas de demande.
Merci beaucoup, Alain Lediberder, d'avoir été avec nous sur Radio J. Je vous souhaite une excellente continuation.
Merci.
Et peut-être un livre sur les États-Unis et leur système.